We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de We Do Biz, vous qui nous rejoignez. Le constat est effarant. 51% des PME ont déjà subi au moins une attaque informatique et elles sont 33% à avoir été attaquées plus de deux fois. Sécuriser son parc informatique devient donc une priorité pour les entrepreneurs. Mais comment pratiquer quand on est novice ou désarmé face à une attaque brutale de ses données stratégiques? Pour en parler avec nous, deux spécialistes à mes côtés. Jérôme Robert, directeur marketing de Lexi, cabinet de conseil en cybersécurité. Et François Brisson, responsable technologie média chez Hiscox France, groupe international d'assurance offrant une couverture globale de risques de piratage. Messieurs, déjà, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, on va, si vous le voulez bien, démarrer avec vous, peut-être Jérôme Robert. Une étude de juin dernier, menée par l'Institut Next Content auprès de dirigeants de PME françaises, montre que des structures multi-équipées, j'entends par là celles qui sont à la fois munies d'ordinateurs, tablettes, smartphones, c'est les entrepreneurs, si vous voulez, donc peinent à maîtriser la problématique globale de sécurité qui les expose à des attaques, notamment, si vous voulez, les pertes de données clients. On s'est rendu compte qu'il y a plus de 62% d'augmentation justement dans ce domaine, de perte de données clients, et 85% d'augmentation de prise de contrôle à distance. C'est vous dire déjà à peu près les angoisses multiples que beaucoup de dirigeants de PME ont. Donc, Lexi est un cabinet indépendant spécialisé en sécurité informatique, gestion de risque sur le net. Je vais vous laisser un petit peu présenter justement votre société, son implantation, aussi bien en France qu'à l'international.
Oui, en deux minutes.
Allez-y déjà, et puis moi je reprendrai au fur et à mesure sur ce qui est intéressant.
Ok, donc Lexi, c'est effectivement un cabinet spécialisé en sécurité, c'est 200 personnes, un petit peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous ne faisons que de la sécurité, que des prestations intellectuelles, donc audit, conseil et de la veille également sur les menaces. C'est un gros cabinet à l'échelle française, sans doute le plus gros, dans le sens où il existe d'autres structures, mais qui ne sont pas spécialisées en sécurité, pour lesquelles la sécurité est une part de leur offre de services. Nous, on ne fait que ça. Nous sommes implantés en France, à l'international également. Ça doit représenter 20 à 30% de notre chiffre d'affaires, et notamment avec trois implantations fortes, Singapour, Montréal et la France, bien sûr. Sachant que nos implantations internationales ne sont pas que des vitrines commerciales, on a des vrais, on a des consultants qui travaillent là-bas, qui produisent, et ça nous permet notamment de faire notre veille en 24/7, etc.
Vous faites de la veille, des enquêtes dédiées à la protection du patrimoine en ligne des organisations aussi ?
Absolument. Hein ? Absolument. Donc on a dans nos activités, notamment de conseil, effectivement, on a des experts qui produisent régulièrement, je crois qu'il y en a une douzaine par an, des rapports cybercrime, donc spécifiquement cybercrime, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le cyberespionnage ou des choses comme ça, on pourra en parler, et qui couvrent des domaines assez variés. Ça peut être des bonnes pratiques de sécurité, assez pédagogiques, ça peut être une veille sur des aspects juridiques, une nouvelle loi européenne sur la protection des données, qui s'impose aux gens qui manipulent des données bancaires ou des données clients, personnelles donc.
Voilà. D'accord. Bon, François Brisson, vous de votre côté, vous êtes dans un domaine, est-ce qu'on peut dire qu'il est neuf dans le sens où le marché de l'assurance des risques des cyberattaques, c'est un marché relativement nouveau quand même. Il n'y a que quelques compagnies qui le proposent jusqu'à présent. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous proposez un contrat dédié à la cybercriminalité en Europe, je crois, seulement depuis deux ans maintenant, c'est ça, non ?
Depuis fin 2010.
Donc fin 2010.
Un petit peu plus que ça, oui.
D'accord, ok. Et alors bon, bah, je vous laisse à votre tour justement parler un petit peu de ces activités d'Hiscox qui vont intéresser celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, alors Hiscox est une compagnie d'assurance d'origine britannique. Hiscox France est implantée à Paris, à Lyon, à Bordeaux depuis 2004. Hiscox est un assureur spécialiste, dit spécialiste, et notamment sur la couverture des risques liés aux technologies. Mmh. Donc on connaît bien les problématiques qui sont liées aux nouvelles technologies pour des clients qu'on assure depuis maintenant plus de 30 ans dans le monde. Le risque cybersécurité, d'un point de vue assurantiel, il vient des États-Unis. Depuis 2005, il y a certaines obligations, notamment de notification d'incidents de sécurité, qui obligent les entreprises à communiquer au public et aux régulateurs d'incidents qui touchent des données à caractère personnel. Donc cette pratique de l'assurance aux États-Unis, elle a été importée en Europe au début des années 2010 pour voir se développer certaines offres qui viennent garantir les conséquences financières des actes de hacking, de la perte ou de vol des données à caractère personnel ou des données sensibles clients ou stratégiques d'entreprise.
Je crois, vous allez me le confirmer, qu'il y a une obligation pour les entreprises d'être notifiées et enregistrées à la CNIL.
Alors, depuis...
Il me semble qu'il y a une ordonnance là-dessus.
Il y a une ordonnance qui date de août 2011 en France, qui oblige les entreprises, elles sont assimilées aujourd'hui aux fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs télécoms, qui ont aujourd'hui une obligation de notification à la CNIL d'incidents de sécurité qui touchent les données personnelles de leurs clients. C'est effectivement la seule obligation qui existe aujourd'hui pour les entreprises en France. Ce ne sera sans doute pas le cas avec un prochain décret européen qui va sans doute amener l'ensemble des opérateurs économiques à devoir déclarer quand ils ont un problème de sécurité.
Comment ça se passe ? C'est-à-dire que vous avez une couverture, on peut peut-être la définir comme une couverture globale.
C'est ça.
Que vous offrez. Alors, moi, par exemple, je suis responsable de PME, je viens de subir une attaque pénalisante. Quel type de couverture pouvez-vous me proposer ? Dans le détail, disons, qui puisse m'intéresser tout de suite.
Alors d'abord, simplement, ce qu'on propose, nous, c'est un retour à la normale. D'abord, avec l'intervention de différents experts informatiques, ce qu'on va appeler les forensics, donc qui vont agir sur la cause de l'incident de sécurité, son mode opératoire, et permettre de patcher, comme on dit, la faille ou de la réparer, et de recouvrer les données qui éventuellement ont été compromises. On ira ensuite compenser les éventuelles pertes de business ou de revenus a subi l'entreprise du fait d'un incident de sécurité. Et la couverture sera étendue également aux éventuelles réclamations qui peuvent venir de tiers suite à ces incidents de sécurité. Donc c'est effectivement de ce fait-là qu'on parle de solution globale. Il y a une solution assurance et il y a une solution aussi assistance.
D'accord.
Parce qu'on constate un peu chez nos clients, qu'ils soient petits mais qu'ils soient aussi un peu plus gros, c'est qu'ils ont assez rapidement, ils sont assez démunis devant ce type de problématique. Ils peuvent s'adresser à la société informatique qui a installé leur système d'exploitation ou leur logiciel.
Oui, ils vont au plus près peut-être de quelqu'un qui peut les renseigner.
Voilà, donc ces personnes-là n'ont pas l'expertise que peut avoir Lexi, par exemple. C'est une vraie compétence particulière qui nécessite des gens qui soient formés en permanence et qui savent complètement adresser ce genre de problématiques.
Alors c'est justement là que je me tourne vers Jérôme Robert pour qu'il nous en parle un peu aussi, justement, dans votre vocation de conseil et de formateur, aussi de formation sur la sécurité, puisque j'ai vu aussi que vous aviez des modules, 45 ou quelque chose comme ça.
45 formations. Modules.
Donc c'est intéressant de développer là-dessus aussi.
Ok. Pour rebondir sur votre propos, c'est vrai que nous, les bonnes pratiques, enfin ce qu'on met en place chez des clients qui sont peu matures, qui n'ont pas forcément de services informatiques développés, qui n'ont pas forcément des grosses pratiques sécurité en interne, c'est de faire une sorte de parcours de santé où on démarre par de l'audit et pas du conseil. On va démarrer par de l'audit, on va regarder où sont les points de faiblesse de l'infrastructure, les points d'hygiène informatique à améliorer, etc. etc. Et on récupère une sorte de photo du niveau de sécurité de l'entreprise. Et sur cette base, on se réunit avec le client et puis on se dit, bon, vous, votre activité, c'est ça. Votre exposition au risque est celle-ci, parce que vous êtes dans un domaine sensible, parce que, etc., vous manipulez beaucoup de données bancaires, j'en sais rien. Donc, vous êtes au niveau 2 de la sécurité, il faudrait que vous atteigniez le niveau 6, c'est ce qui correspond à votre secteur, à votre activité. Et donc là, on va mettre en place une prestation de conseil pour améliorer le niveau de sécurité, leur proposer des nouvelles architectures, éventuellement des outils, même si on ne fournit pas ni d'outils, ni on ne préconise de marques, mais on dit, par exemple, il va vous falloir tel type d'équipement, un firewall, je ne sais pas quoi, jusqu'à atteindre le niveau de sécurité requis. on fait le système de formation qu'on peut proposer à tout niveau dans l'entreprise, aussi bien pour prendre des gens du service informatique qui ne sont pas compétents en sécurité et leur donner un premier vernis, voire aller jusqu'à les transformer en véritables experts du sujet, et aussi des sensibilisations du personnel non technique. Parce que quand vous attaquez une entreprise, vous êtes souvent... c'est plus facile en général d'aller hacker le poste de la d'aller pirater pardon le poste de la personne qui fait l'accueil qui est pas forcément sensibilisée au risque etc plutôt que d'affronter en direct le poste du PDG quoi, vous voyez. Donc on fait ce genre de formation et puis ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la veille quelque part, connaître son ennemi est presque aussi important que savoir où on en est soi-même au niveau de la sécurité. Et donc, on a ce système où, en permanence, où vous avez une entreprise, tel secteur d'activité, tel type de matériel chez vous, etc. Et bien, on va vous, toutes les semaines, on va vous dire, attention, dans votre secteur d'activité, en ce moment, il y a ce genre d'attaque qui se passe. Elles utilisent tel vecteur d'entrée dans l'entreprise. Peut-être soyez particulièrement vigilants pendant les semaines
donc
qui viennent.
Vous montrez les points faibles à ce moment-là.
Tant que faire se
peut. Du système, bien sûr. Et je crois savoir que vous montez aussi des ateliers.
Des ateliers dans le cadre des formations ? Ah oui, là on fait... Les formations peuvent aller très loin, hein. On monte des environnements industriels, artificiels, on fait des ateliers aussi de gestion de crise. Par exemple, on se réunit avec la direction de l'entreprise et on simule une attaque. Donc on est dans une pièce.
Simulation.
Simulation. Et là, on dit, bah voilà, il me faut, pour faire l'étape de forensique, il me faut appeler votre service informatique, donnez-moi les logs. Et puis là, on va constater que les logs, ça va prendre 2 heures pour les avoir. Il faudrait que ça prenne 5 minutes. On va avoir un journaliste qui va tout d'un coup, info, hein, bien sûr, qui va appeler à l'accueil en disant, oui, j'ai entendu parler que... Donc on va les entraîner à gérer la crise médiatique.
D'accord.
Maintenir la confiance envers les clients. Enfin, c'est, voilà.
OK. François Brisson, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les types d'entreprises qui font appel à vous à l'heure actuelle le plus ? Je crois que la grande distribution peut-être ?
Alors, il y a trois secteurs.
Il y a plusieurs domaines. Enfin, je crois qu'il y a trois secteurs.
Je vais parler de trois grands secteurs. C'est tout ce qui va regrouper aujourd'hui le e-commerce.
Oui.
Alors, ça peut être du e-commerce pure player, des gens qui font que ça, qui n'ont que cette activité. Et les entreprises, donc notamment la grande distribution, qui a en partie des activités de e-commerce. C'est pour ça qu'on parle de, notamment des risques qui sont liés à des ventes en ligne, à des ventes en drive, des choses comme ça. Donc, on a ce secteur-là du e-commerce. Alors, ça va de toutes petites entreprises qui font de la vente de meubles, d'habits, de chaussures, jusqu'à des entreprises plus importantes qui travaillent ou qui ont des gros sites de réservation dans le tourisme, l'hôtellerie ou des activités de ce type-là. Un deuxième secteur important qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le secteur de la santé. C'est vrai qu'il y a une problématique un petit peu particulière qui est liée à la protection des données de santé. Les entreprises qui travaillent dans ces secteurs-là, elles ont certains types d'obligations qui sont liées en partie au secret médical et qui sont liées en partie à l'accès aux données pendant assez longtemps, hein, pendant une dizaine d'années. Donc, ils ont des problématiques de sécurité qui sont particulières. Donc, c'est ce secteur-là. Le dernier secteur, il est un peu plus large. C'est plus des gens qui sont dans l'activité, je dirais, informatique au sens large. Donc, on va retrouver là-dedans des hébergeurs, des data centers
ou des SS2I,
aux entreprises du numérique au sens large.
Mm-hmm. L'un et l'autre, j'aimerais avoir votre sentiment justement sur un autre phénomène aussi qui prend de l'ampleur aujourd'hui, on en parle évidemment beaucoup, c'est le cloud. Okay ? Est-ce que là encore, est-ce qu'on peut maîtriser assez facilement une cyberattaque sur le cloud ? Là, j'aimerais avoir vos sentiments respectifs. Jérôme Robert.
Par définition, je dirais que non. C'est tout l'enjeu du passage au cloud, à une architecture dans le nuage. Il va falloir être très vigilant quand on va choisir son fournisseur. Et on lui donne un peu les clés de la maison, quoi. C'est-à-dire que ça devient un... Il fait en général très bien son travail, hein, parce qu'évidemment, il a parfaitement conscience que c'est une barrière à l'entrée pour son business. Donc, il a bonne pratique de sécurité. Mais vous comprenez, moi, si je suis pirate, j'ai, 20 000 cibles PME-TPE que je veux hacker en Europe, que j'ai ciblées. Et bien, si elles sont toutes dans le cloud, c'est beaucoup plus facile. Je vais me concentrer sur un point. une attaque qui va cibler spécifiquement le cloud. Ça devient un single point of failure. Je ne sais pas trop comment le dire.
Vous voyez l'idée.
Et donc voilà, c'est rentable pour un hacker. Là, c'est plus difficile, certainement, d'aller le hacker que de hacker les saucissons Mireille. Mais par contre, c'est nettement plus grosse récompense.
François Brisson, votre sentiment là-dessus sur le cloud? Tout ce que vous en observez.
Ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, c'est qu'il y a des regroupements extrêmement importants d'entreprises qui confient assez rapidement, et d'ailleurs sans trop se poser de questions, à des entreprises dites de cloud. Elles ont un choix de prestataires qui est plutôt lié à un problème budgétaire, hein, qui est un problème de sécurité. On va être moins exigeant avec une entreprise de cloud qu'avec son service informatique, par exemple, en termes de sécurité. On a plutôt tendance à se dire, de toute façon, ils seront responsables s'il y a un problème. Or, j'invite chacun d'entre nous tous à bien regarder les contrats qu'on va signer avec les prestataires dans le cloud, les hébergeurs. Il y a peu ou pas de responsabilité établie en France aujourd'hui dans les contrats. Donc, les entreprises vont se retrouver un petit peu seules, en fait, par rapport à ces problèmes-là. Ce qu'on voit notamment, pour peut-être être plus précis sur ce point-là, dans les activités du e-commerce, c'est que les entreprises de cloud qui peuvent avoir un problème de sécurité, ça va impacter en très peu de temps énormément de clients. Et le seul choix qu'il va y avoir à un moment donné, c'est de couper le site.
Ah ouais.
Et là, on a un problème, c'est que l'entreprise peut être dans une situation... je prends un exemple, si je vends des fleurs en ligne, si ce problème-là d'indisponibilité de mon site internet a lieu... le 12 juillet, c'est pas trop un problème. Par contre, la veille de la Saint-Valentin, ça peut être un problème particulier. Donc la sécurité, de ce point de vue-là, elle peut être vue de différentes façons. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui tendance à confier de manière un petit peu sans soucier de la sécurité à des prestataires extérieurs.
D'accord. Dernière question que je voulais vous poser à l'un et à l'autre, parce que les internautes s'y intéressent aussi, c'est la protection au niveau des mobiles. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on a de bons moyens techniques de protection des appareils mobiles ou pas, Jérôme Robert?
Je dirais oui et non. Les appareils mobiles en tant que tels, et notamment ceux qui sont les plus largement diffusés dans le commerce, notamment par Apple, Microsoft ou Google, sont de base des appareils plutôt bien sécurisés. On a tendance à mettre un petit peu des coups de poignard, mais ils sont plutôt bien faits. Le fait qu'ils soient fermés, qu'on puisse, à quelques exceptions près, notamment chez Google, pas installer n'importe quoi, ça ferme l'environnement et ça rend le piratage plus difficile. Ceci étant dit, ça reste un problème puisque vous ne pouvez pas non plus installer d'équipements de sécurité, vous ne pouvez pas les manager, vous n'avez pas la vue dessus. Il existe des solutions, mais qui sont aujourd'hui, qui rendent un service assez modeste en termes de sécurité, qui peuvent être utiles en termes de gestion de parc, c'est-à-dire désactiver à distance des téléphones parce que la personne a quitté l'entreprise ou des choses comme ça. Mais en termes de sécurité, contre hacking, etc., c'est extrêmement pauvre. L'offre est très pauvre.
D'accord. François Brisson, vous rejoignez ce point de vue?
Oui, alors je ne vais pas aller dans la technique parce que ce n'est pas mon métier. Ouais. Ce qu'on constate simplement, c'est que le développement des appareils mobiles favorise aussi plutôt de la part des gens qu'on peut voir, nous, qui font appel à nous, à des comportements qui sont plus dangereux qu'avant. On le voit plus, nous, de cette façon-là, dans l'appréciation du risque qu'on peut avoir, qui est plus ou moins élevé par rapport à une entreprise. Une entreprise, elle va bien protéger son serveur, par exemple, elle aura un firewall, elle aura l'antivirus, elle aura un certain contrôle de ses activités. Par contre, sur les appareils mobiles qui sortent, il n'y aura pas forcément de mot de passe, il n'y aura pas forcément de protection. Et pourtant, là-dessus, vous avez dans vos mails, vous avez tous vos fichiers, notamment vous avez votre dernière proposition commerciale, vous avez votre fichier client que vous avez envoyé à un tel ou un tel de la société. Et là, par contre, il n'y a pas de protection. Donc, c'est plutôt ces problématiques de comportement-là qu'on a mis un peu en exergue récemment suite à une étude qu'on a fait avec l'IFOP, où on s'aperçoit que dans l'entreprise, les comportements un petit peu dangereux, ils ont pris une certaine ampleur avec les appareils mobiles, avec ce qu'on appelle le BIOD, qui développe, en tout cas, n'a pas favorisé une culture de la sécurité dans l'entreprise. On a une impression de sécurité un petit peu générale, mais on ne va pas protéger forcément ces appareils mobiles contre du vol, contre des tiers, contre des manipulations de ses enfants, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc voilà, c'est plutôt là que nous on voit ça, dans une espèce d'aggravation des risques qui sont liés aux pratiques en fait que tout le monde a avec son mobile, qui est un appareil très personnel. qu'on a tendance à rendre le plus simple possible d'utilisation. Donc les éléments de sécurité, on va faire un petit peu moins bien sans doute que ce qu'on a chez soi ou dans son entreprise.
Voilà, bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux justement de toutes ces précisions qui ne vont pas manquer d'intéresser celles et ceux qui nous écoutent et qui pourront naturellement à ce moment-là se tourner vers vous en fonction de leurs besoins. Voilà, merci et à la prochaine fois, toujours sur WeDoBiz bien sûr.